Et bien sûr, je donne mes vœux à tous nos auditeurs. Nous nous sommes salués entre présentateurs d'émissions, mais il faut également vous souhaiter une bonne année 2012 à toutes et à tous. Premier temps de notre nouvelle semaine de la Fabrique de l'Histoire consacrée à la naissance des partis politiques. Donc, demain, nous traiterons de la naissance du Front National, il y a 40 ans très exactement, avec un documentaire de Grégoire Kaufmann et de Véronique Samouilov, et les témoignages de ceux qui participèrent à la naissance de ce parti, en particulier, évidemment, de Jean-Marie Le Pen. Mercredi, nous nous demanderons comment le 19e siècle a vu naître ce qui ressemble peut-être à nos partis politiques modernes. Jeudi, nous nous demanderons s'il existait même des partis politiques à Rome. Et aujourd'hui, eh bien, grâce à l'érudition et à la flamme de Gilbert Dagron, professeur honoraire au Collège de France et à la chaire d'histoire du monde byzantin, nous allons nous passionner pour un lieu central de Constantinople, son hippodrome. Un hippodrome qui fut, pendant des siècles, lieu de jeux publics, bien entendu, mais aussi de conflits politiques autour de la personnalité centrale de l'empereur. Gilbert Dagron raconte tout cela dans un livre extrêmement documenté, très passionnant, qui s'intitule « L'hippodrome de Constantinople, jeux, peuple et politique », publié aux éditions Gallimard dans la Bibliothèque des Histoires. Il sera avec nous d'ici quelques instants, mais auparavant, vous le savez, chaque lundi, vous retrouvez un feuilleton que vous pouvez d'ailleurs télécharger séparément de notre émission, un feuilleton autour des archives nationales. Vous le savez, ces archives vont bientôt déménager. Nous suivons la préparation de ce déménagement. Et aujourd'hui, nous allons nous retrouver justement du côté de Pierrefitte-sur-Seine, là où une partie des archives va déménager.
Actuellement, donc, on peut dire qu'on est entre 400 et 450 ouvriers sur le site. L'entreprise n'avait pas imaginé arriver à cet effectif, mais l'effectif aujourd'hui est justifié par une nécessité d'accélérer un peu la fin du chantier pour ne pas dépasser les délais prévus. Donc on tourne chaque semaine qui vient entre 400 et 450, tout le corps d'État confondu.
Il y a des filles qui vendent partout, les grilles, évidemment les plafonds sont passés.
C'est qu'aujourd'hui on est dans des zones où on a croisé de l'eau là. Ouais. On est dans un chantier comme il était il y a 6 mois, zone généralisée avec de l'eau partout. Et puis on a des zones aujourd'hui qui sont complètement terminées où il faut mettre des chaussons pour marcher parce que c'est fini quoi. Donc on est vraiment dans une période un peu étonnée.
La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la discussion.
On va s'arrêter une minute dans cette salle.
Cela fait un an maintenant que vous suivez sur notre antenne ce feuilleton, donc cette balade aux archives nationales. Et il y a tout juste un mois, Séverine Niattard se rendait sur le chantier de Pierrefitte-sur-Seine pour la mise en place des premiers rayonnages. On s'approche du terme.
Donc Jean-Luc Bichet, là, on est dans un espace assez particulier. Donc le chantier n'est pas quasiment terminé, mais ça y est, enfin, les croisillons sont en place, les vitres sont en place. Également.
Donc on a fait depuis quelques jours la mise en peinture des structures métalliques qui enveloppent chacun des satellites permet d'avoir une vision à peu près identique à celle qu'auront les visiteurs, les lecteurs, les agents quand ils viendront sur le site. Bien sûr, il reste encore quelques plastiques qui protègent certains ouvrages de mise en peinture, mais aujourd'hui on a quand même une vraie réalité devant nous, alors que pendant des mois on a eu des peintures anti-rouille de couleur rouge qui ne permettaient pas d'avoir une vraie vision de ce que sera le bâtiment.
Emmanuel Rousseau, donc vous voyez souvent ?
Nous nous voyons régulièrement parce que le département de la conservation dont j'ai la responsabilité sera un des utilisateurs du bâtiment, un utilisateur un peu au centre des préoccupations des archives puisque la conservation des documents, elle peut être de plusieurs natures. Il y a une conservation passive, c'est ce qu'on appelle la conservation préventive, c'est-à-dire le fait d'installer les documents dans des conditions favorables de conservation. Et puis, il y a aussi une conservation plus active qui passe soit par la restauration, la reliure, la dorure, ou bien par la dématérialisation, donc photographie, numérisation, microfilmage. Ce qui est merveilleux dans ce projet, c'est que c'est quand même la première fois dans l'histoire bicentenaire de notre institution qu'on nous construit un bâtiment qui est là pour assurer toutes les fonctions. À Paris, nous nous sommes installés dans des hôtels particuliers, puis on a construit au 19e siècle des magasins d'archives qui répondent à certaines prescriptions, aujourd'hui encore d'ailleurs, de conservation, mais l'installation des ateliers techniques, l'installation des bureaux, l'installation des salles de lecture, tout ça a été un peu chaotique tout au long de nos 200 ans d'occupation du site parisien. À Fontainebleau, c'était une ancienne caserne de l'OTAN dans laquelle on a fait un minimum de travaux et puis on y a installé des rayonnages. Mais enfin là, quand même, pour la première fois, on voit sortir de terre en 200 ans le bâtiment des Archives nationales.
Allons voir les magasins.
Affirmatif.
Tu mets des surchaussures.
Bah oui, comme vous disiez, Jean-Luc Bichet, il y a des parties chantier, et des parties, il faut mettre des surchaussures en fait. Alors on est arrivé au 7e étage.
Oui, nous sommes au 7e étage. Donc nous sommes dans la zone d'arrivée des Mont-de-Charles ascenseurs, ce qu'on appelle le noyau de circulation verticale, hein, où on va voir les magasins.
Donc ça y est, il y a des rayonnages en place. C'est vrai que c'est assez étonnant le contraste, hein, parce qu'on était en bas du bâtiment, effectivement, il y a des pelleteuses, il y a beaucoup d'ouvriers qui travaillent, et là, il y a déjà donc des rayonnages en métal.
Donc des rayonnages qui sont en place. Ici, nous sommes dans une salle qui fait 200 mètres carrés de surface, qui est la taille, entre guillemets, réglementaire pour une salle d'archives dans un bâtiment d'archives publiques comme le nôtre. Et ici, vous êtes en présence d'un équipement dit mobile qui permet d'avoir un peu plus de 2 km linéaires de tablettes, ce qui permettra d'installer un peu moins de 2 100 km de documents, puisque on va pas, je dirais, surcharger les tablettes, hein, il faut qu'il y ait de l'espace entre chaque carton, chaque registre, pour qu'on puisse facilement le saisir, le manipuler. Donc il y a un ratio qui est de l'ordre à peu près de 15% de perte de place entre l'équipé et l'effectivement occupé. Alors l'avantage des rayonnages mobiles, c'est qu'il permet bien entendu d'accroître la capacité de stockage de la salle. Alors c'est un système qui est comme un mécanisme d'horlogerie en fait, extrêmement précis et complexe et qui a besoin de réglages très très fins. L'avantage ici, c'est que les rails qui permettent la circulation des rayonnages ont été inclus directement dans la dalle de béton au moment où la dalle a été coulée. Alors ça pose tout un tas de problèmes techniques parce qu'il faut que vraiment la dalle de béton soit absolument plane et qu'il n'y ait aucun dévers entre l'entrée, enfin l'une et l'autre partie du magasin. Et puis, si on manipule un peu la crémaillère, il n'y a aucun bruit et ça se bouge du petit doigt. Mais une fois que les rayonnages seront chargés, je crois qu'on a à peu près 1 tonne par épi.
En chargé, il y a plus d'une tonne par épi. Voilà. Parce que là, on est sur 8 mètres, des chariots de 8 mètres de long, 16 mètres sur 6 niveaux. Ça fait 100 mètres linéaires et le poids va se situer aux alentours de 60 kg à peu près le mètre linéaire, entre 50 et 60 kg. Donc on aura des chariots qui sont chargés à peu près à 6 tonnes.
Alors pour se repérer dans le magasin, donc sur la porte, il y aura le numéro du magasin. Puis ici, en drapeau, on aura en haut de chaque épi, du côté de l'allée de circulation, le numéro de l'épi. Et un épi est subdivisé en travées, une travée étant elle-même subdivisée en tablettes, 6 tablettes, et chaque travée est numérotée.
Séverine Liattard, Véronique Samouilov.
Vous retrouverez ce feuilleton la semaine prochaine, bien évidemment, le lundi en ouverture de notre émission. Mais vous pouvez le réécouter, le conserver également, puisqu'il est téléchargeable séparément du reste des émissions de La Fabrique de l'Histoire. Donc on allait chercher sur les podcasts de France Culture, donc la balade aux Archives nationales. Bonjour Gilbert Wagron et merci d'être avec nous.
Bonjour.
Et d'avoir accepté donc un peu difficile évidemment que de travailler autour de ce sujet-là quand on est spécialiste comme vous de Byzance, d'ouvrir cette semaine avec votre livre donc L'Hippodrome de Constantinople, Jeux, Peuple et politique, de vous intégrer dans une semaine sur la naissance des partis politiques. On va expliquer pourquoi à nos auditeurs assez rapidement. Mais peut-être partons d'une date, celle d'aujourd'hui. Nous sommes un 2 janvier, Gilbert Dagron. Que se passait-il du côté de Constantinople le 2 janvier, en rapport justement avec ce fameux hippodrome de Constantinople qui va nous occuper pendant toute cette heure?
C'est vous qui allez nous le préciser. Je crois, je ne suis pas un préfet des commémorations byzantines, mais je pense que quelque chose s'est passé le 2 janvier 530, au moment de la révolte Nika.
Ouais. Et puis aussi, c'était la cérémonie du vœu, donc le vœu qui se déroulait 7 jours après Noël, c'est ça, 8 jours après Noël, on organisait une première course d'hippodrome pour célébrer peut-être la nouvelle année, pour mettre fin aux cérémonies qui tournaient autour de Noël. Que se passait-il de cette cérémonie du vœu et qu'est-ce que c'était que cette cérémonie du vœu à Byzance autour de l'empereur et qu'avait à faire justement la question de l'hippodrome et de l'empereur à ce moment-là justement?
Ça remonte assez loin et à l'époque byzantine, une espèce de partage des calendriers chrétien et ludique s'est opéré. Si bien qu'on a récupéré sous la forme d'une course hippique ou d'une course à pied, car le vœu signifie course à pied normalement.
Le vœu, ça veut dire la course à pied.
Il y avait plusieurs jeux après le 1er janvier à l'époque romaine. Il n'y en a plus qu'un, semble-t-il, à l'époque byzantine, et le vœu, c'était une course à pied qui se déroulait à l'hippodrome, néanmoins, et qui avait un très grand succès. C'était vraiment l'occasion d'une pagaille indescriptible avec un public très, très motivé qui descendait dans l'arène, ce qu'il est difficile de faire quand c'est une course de chevaux, sous peine de se faire renverser.
Voilà. Alors, c'est donc ça montre bien l'importance, en tout cas symbolique, de cet hippodrome de Constantinople. On dit hippodrome de Constantinople parce qu'en fait, on s'aperçoit, on pense, et c'est ce que vous expliquez dans votre livre, Gilbert Dagron, que même s'il y a peut-être eu des prémices à cet hippodrome de Constantin, donc monté par Constantin à partir du moment où il prend le pouvoir et où il va fonder cette nouvelle capitale, cette nouvelle Rome à Byzance. Donc, il y a peut-être eu des prémices, mais en tout cas, c'est plutôt sous lui que va se dérouler la constitution de cet hippodrome, qui va être un élément central de la vie ludique, de la vie religieuse, de la vie politique, de cette nouvelle capitale, d'un nouvel empire, donc ce nouvel empire romain qui a pour cette capitale justement Byzance.
Oui, je crois qu'on ne peut pas comprendre le lien entre le jeu, les courses hippiques en particulier, et le domaine de la politique ou du politique, si on ne remonte pas à Rome, car les courses hippiques à la romaine, contrairement aux concours grecs, sont dès l'origine un peu plus qu'un jeu. Elles mobilisent d'abord le peuple entier, le peuple d'une cité, et elles rythment le calendrier saisonnier. À l'origine, ces ludis sont des rituels funéraires ou agraires. Le cheval est à la fois du reste un animal ctonien, lié à Poséidon, et solaire, lié au soleil. Et la course en alternance, avec deux virages dangereux à 180 degrés, simule le passage de la vie à la mort, la perpétuelle renaissance des saisons, de la nature, à une époque où elle paraît s'épuiser.
Ça, c'est ce qu'on voit, par exemple, dans les représentations des péplums, en particulier dans des péplums comme Bénur, c'est ce qu'on imagine, c'est ça, c'est cette représentation-là.
Exactement.
Que l'on trouve donc dans la ville de Rome elle-même, oui, avec le Circus Maximus en particulier, mais qu'on trouve aussi dans tout un tas d'autres villes de l'Empire romain. Il y en a un peu partout qui se répandent, ces hippodromes existent un peu partout et ces courses ont lieu un peu partout, oui, dans l'Empire romain, avant même qu'elles ne soient transplantées dans cette ville de Byzance et qu'elles deviennent centrales dans l'Empire byzantin.
En effet, il a fallu une assez longue histoire pour que le Circus Maximus se forme avec ces rituels dont je parlais, qui sont agraires et qui deviennent peu à peu avec l'Empire, notamment plus politique dans la mesure où l'empereur est présent et c'est son propre renouvellement rituel qui est célébré à l'hippodrome. Mais l'hippodrome est un monument qui compte énormément dans la romanisation de l'Empire et qui s'exporte donc à partir du Circus Maximus, clé en main, j'allais dire.
On reprend le modèle, quoi, de cette façon.
Le modèle architectural est évidemment commandé par une certaine fonctionnalité. On ne peut pas courir sur un espace petit. Il faut un hippodrome d'environ 450 mètres de longueur, de 80 de largeur. Et il y a des dimensions qui sont quasiment imposées. La forme elle-même, les règles du jeu sont les mêmes. Et à des époques bien précises, celui de l'extension du pouvoir romain, notamment en Orient, les concours hippiques à la grecque ont été remplacés par des jeux romains avec tout à fait semblables à ceux de Rome, dans le principe au moins, et particulièrement à l'époque où les empereurs ont cessé d'habiter à Rome ou d'y être très longtemps. Déjà à l'époque de Septime Sévère, on récompense les bonnes cités en leur construisant
un
hippodrome. C'est une manière de romaniser. Et plus particulièrement alors, au moment où les empereurs se divisent l'Empire, les tétrarques se divisent l'Empire, n'habitent plus à Rome, ont des résidences et la construction d'un hippodrome dans ces sites de résidence, Sirmium, Thessalonique, Trèves, Milan, avant même que Constantinople soit fondée, font que l'empereur a besoin d'être d'un populus romanus
rassemblé,
c'est le peuple de la cité qui, le temps d'un jeu, d'une journée de séance hippique, acclame et renouvelle ainsi la légitimité de l'empereur. C'est Rome hors de Rome.
Alors ça, c'est passionnant, parce que ce que vous racontez dans votre livre, Gilbert Dagron, l'hippodrome de Constantinople, Jeux, peuple et politique, chez Gallimard, c'est justement que ça dure toute une journée et qu'il y a des dizaines et des dizaines de journées consacrées à cela pendant donc toute une année, où ce moment de l'hippodrome est un moment de rassemblement du peuple. Alors on peut rassembler 10 000, 15 000, 50 000 personnes, peut-être plus quelquefois. Avec une codification très particulière, la loge de l'empereur placée à un certain endroit, assez rapidement placée de sorte qu'il apparaisse comme étant un soleil qui se lève d'une certaine façon et qu'on va finir par saluer comme étant le renouveau et le lever du soleil. Et puis, donc, ces rituels qui vont petit à petit se cristalliser dans des formes avec une spina, par exemple, qui est donc une sorte d'arête de cet hippodrome sur lequel on installe eh bien, un obélisque généralement récupéré du côté de l'Égypte ou reconstruit en maçonnerie. On y installe
une statue particulièrement significative, voilà, comme celle de Cybèle.
Voilà. Et progressivement, donc, on a installé cet hippodrome comme un lieu de la politique en général. Alors, qu'est-ce qui fait que à Constantinople, eh bien, ça change, ça devient quelque chose d'un peu différent de ce qui peut se passer dans les autres villes de l'Empire romain, à Rome d'abord, et dans les autres villes de l'Empire romain, Gilbert Dagron.
Alors, c'est la volonté de Constantin, le fondateur, d'édifier une seconde Rome. Vraiment, dès la construction de Constantinople, il est entendu que ce sera la ville impériale, la ville portant le nom de l'empereur, et une seconde Rome liée à la première par une sorte de lien mystique. Si bien que ce qui est simple imitation ou reproduction dans les grandes cités que je citais, c'est-à-dire les hippodromes de Trèves, de Sirmium, etc.,
ou d'ailleurs,
dont les empereurs disaient c'est ma Rome. Alors là, le schéma se simplifie. Il n'y aura pas plusieurs Roms, il n'y en aura qu'une seule, et la seconde et la première ne formant qu'une seule entité. Quand on construit l'hippodrome de Constantinople, c'est avec ce dessein politique. Et ce dessein politique fait que nous avons à Constantinople un lien entre le palais et l'hippodrome, c'est-à-dire le centre de la politique et le centre ludique de la cité, un lien
physique
qui était pressenti avant, mais qui n'était jamais aussi parfaitement réalisé.
Oui, vous expliquez, effectivement, vous avez refait les plans, vous avez regardé comment ont été collés le palais à l'hippodrome. C'est-à-dire que l'empereur a quasiment pas de chemin à faire pour pouvoir rejoindre sa loge et s'y installer et donc de venir devant son peuple rassemblé pour pouvoir se faire, d'une certaine façon, recréditer de son pouvoir.
Exactement. Et c'est non seulement il y a proximité, mais il y a une liaison très subtile. Le palais a une excroissance qui est la loge impériale, qui communique visuellement, mais
pénètre,
pas matériellement. Mm-hmm. Voilà. C'est une enclave au fond du palais,
dans l'hippodrome,
dans l'espace populaire. Voilà. Mm-hmm. Bon, c'est très utile en cas de révolte, qu'il n'y ait pas de communication directe, mais c'est très significatif aussi parce que ça permet un rituel de royauté. Vous savez que Basileus, on peut le traduire aussi bien par roi que par empereur. Une espèce de théâtre de la royauté est ainsi instauré où le lien visuel est direct entre le peuple et l'empereur, mais avec une communication biaisée, c'est-à-dire que l'empereur se fait utilise un porte-voix pour, un phonovolos, en grec, un héros, pour parler, pour répondre aux questions éventuelles que le peuple en face de lui, aux questions qu'il pose.
Alors, il y a un rituel que vous expliquez très précisément, même si il faut dire que vous n'êtes pas aidé par les textes. Il faut bien reconnaître que on a des textes, ils sont épars, ils ne sont pas de la même période. Il y en a qui datent de l'époque de Constantin, d'autres qui datent de l'époque de Justinien plus tard, au VIe siècle. Il y en a d'autres qui datent du Xe siècle. Et donc, évidemment, vous nous dites et vous nous mettez en garde, Gilbert Dagron, ce sont des hypothèses. Sûrement que l'hippodrome n'a pas eu le même rôle à sa fondation par Constantin qu'au moment de la révolte Nika sous Justinien au VIe siècle, qu'au Xe ou XIe siècle, et qu'à l'arrivée des croisés latins au XIIIe siècle. En tous les cas, vous nous mettez en garde. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit bien qu'il y a autour de cet hippodrome quelque chose qui se passe, qui tient à la fois du jeu, vous nous l'avez expliqué, du religieux, puisqu'il y a cette dimension impériale et religieuse qui est très présente, et puis également de la politique, parce que vous avez émis un mot qui est très important dans notre discussion, c'est le mot de « dème », sur lequel vous revenez après bien d'autres, pour tenter de comprendre ce que sont ces dèmes. Donc, ce sont des assemblées, des groupes, que sont-ils exactement, qui sont rassemblés sous des couleurs. Au sein de cet hippodrome, il y a quatre couleurs, nous expliquez-vous. Il y a le bleu, il y a le vert, il y a le blanc, il y a le rouge. Il y a des couleurs principales qui sont le bleu et le vert, des couleurs secondaires peut-être, qui sont le rouge et le blanc, et qui sont alliés aux premières couleurs. Et chacune de ces couleurs représente un équipage qui va concourir dans ces courses de l'hippodrome. Qui sont ces dèmes? Pourquoi sont-ils importants? Et quel rôle jouent-ils dans la politique, s'il y a politique de Byzance, que ce soit au 3e ou au 5e ou 6e siècle, Gilbert Dagron.
Je réponds d'abord à la première question que vous me posiez, c'est-à-dire peut-on juxtaposer pour comprendre le rituel de l'hippodrome, le cérémonial, des textes dont certains datent du 5e, 6e siècle et d'autres du 9e siècle. Je vous dirais que un rituel ou un cérémonial se conserve, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de chances pour que ce soit une espèce de strate permanente. Et j'en suis convaincu par le fait que l'on retrouve dans les paroles mêmes des dèmes, des acclamations, les traces des vieux rituels romains, mais vieux, tellement anciens que même à l'époque impériale romaine, ils avaient été laïcisés, ils n'existaient pour ainsi dire plus.
Par exemple, en gros, on peut prononcer des phrases, on peut prononcer des formules dans la Constantinople du 6e ou 6e siècle qui remontent à l'époque impériale, voire avant l'époque impériale de Rome, et qui sont là, qui sont présentes comme une sorte d'archéologie, de traces de ce qui s'est passé.
Il y a une course qu'on appelle les Lupercales. Que viennent faire les Lupercales à Constantinople? On a complètement oublié les Luperques. Et dans le folklore constantinopolitain, cette présence de Romulus et Rémus que j'ai noté, anonyme ou nommé du reste Romos et Rémos, est permanente, si bien que le lien, je crois, le lien symbolique, c'est la symbolique de Rome qui a été adoptée ou senti, ressenti dans sa cohérence par Constantinople, un peu dans un registre de langage ou d'image qui correspondant à ce que Dumézil appelle la troisième fonction, c'est-à-dire la prospérité, on revient au rituel agraire, mais aussi la démographie, l'abondance, la consommation. Voilà, c'est à peu près le registre. Un registre extrêmement vaste, mais très cohérent du point de vue symbolique.
Alors, on voit bien le registre dans lequel évoluent ces dèmes. Je vous ai posé la question, mais je vous en posais plusieurs d'un seul coup, Gilbert Dagron, de qui étaient ces dèmes. Visiblement, les historiens se sont arrachés les cheveux, se sont même étripés entre eux de façon très polie, tout de même, pour savoir si les dèmes représentaient une partie de la ville, s'ils représentaient une classe sociale, s'ils représentaient un type de métier. En tous les cas, on note la présence dans cet hippodrome de Constantinople de ces dèmes qui ont un rôle qui n'est pas accessoire, qui est même visiblement très important, de dialogue, de discussion avec l'empereur au moment des courses et avant les courses même, Gilbert Dagron. Alors, qui sont ces dèmes? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire de ces dèmes qui sont dans ce cœur de cet hippodrome?
Ces dèmes sont en effet curieux. Ce pluriel de peuple, d'Emos, est utilisé pour désigner les partisans de telle ou telle couleur représentant les équipes. Alors, schématiquement, si vous voulez, il y a deux choses importantes à noter. Il y a quatre concurrents, donc quatre couleurs pour les désigner.
Bleu, vert.
Le bleu et le vert, couleur principale, et le blanc et le rouge. Mais du point de vue des écuries, de l'infrastructure, et des dèmes eux-mêmes, point de vue de leur représentativité populaire, ne comptent véritablement que les verts et le bleu. Voilà. Il faudra y revenir, car ce sont ce choix de couleurs très proches pour signifier le peuple entier montre bien que la dissociation entre les verts et les bleus est une sorte de gémellité assez difficile à tenir. Le peuple est quelque chose d'unique qui peut se dédoubler et qui, par consensus à l'égard de l'empereur au moment des acclamations peut s'unifier ou complètement éclater en révolte. Cette instabilité est bien marquée par ces deux couleurs jumelles. Alors, ce qu'il faut voir aussi, c'est que le jeu se déroule, le jeu et le cérémonial se déroulent à deux niveaux différents. Il y a en effet des concurrents qui tournent et qui sont l'objet de toute l'attention des spectateurs. Il y a la compétition proprement dite et qui se fait par cette course alternée. Et il y a le face-à-face avec l'empereur qui a une autre signification. Les dèmes sont de l'autre côté de la piste. L'empereur entre dans sa loge et l'empereur unique, l'autocrate, entre dans sa loge. Il bénit les dèmes, d'abord ceux du centre, ensuite à droite, ensuite à gauche. Et la course est lancée. À ce moment-là, si vous voulez, la course politique, c'est-à-dire qu'une priorité est donnée à l'un des dèmes pour commencer l'acclamation. Et l'empereur ne peut plus être neutre. Il est pris au piège, j'allais dire.
Vous nous racontez dans votre livre de l'Hippodrome de Constantinople, Gilbert Dagron, que ces empereurs ont été, pour les uns considérés comme pro-vert, pour les autres considérés comme pro-bleu, qu'ils ont donc eu sous leur coupe ou comme champion plutôt telle équipe plutôt que telle autre. Est-ce que, quand je disais que les historiens s'étaient un peu étripés autour de cette question de ce qu'étaient ces dèmes, c'est qu'ils se sont dit, ces historiens, ça n'est pas possible. Si l'empereur privilégie le parti bleu, c'est parce qu'il y a une puissance politique derrière, il y a une volonté politique, il y a quelque chose, il y a une idée politique qu'il privilégie. Alors, on a essayé de réfléchir à tous ces débats qu'il pouvait y avoir entre monophysite et duophysite au sein de l'Église byzantine. On s'est dit, ouais, il y a forcément quelque chose derrière. Et vous démontez de façon très précise tout cela en disant, ben, il faut se rappeler que c'est un jeu d'abord et que peut-être, quand l'empereur bénit les bleus ou privilégie les bleus, c'est par jeu ou par envie, ou peut-être n'y a-t-il rien d'autre que le choix de cette couleur et de ce parti-là à ce moment-là. Et donc, vous redonnez une sorte de jeu, d'ailleurs, dans ce jeu-là, en disant ben, peut-être il ne faut pas y voir de théorisation trop prononcée de la politique à un moment donné, Gilbert Dagron.
Oui, les empereurs ont eu des préférences qui sont notées par des historiens. Et déjà à Rome, il y avait des empereurs, Caracalla par exemple, était vert, Néron regardait les courses à travers une agate, enfin, il y avait toute une symbolique de la couleur et donc des chevaux favoris. À Constantinople, c'est un peu différent, parce que la division des dèmes, en gros, il y a donc quatre dèmes, mais 2x2, c'est-à-dire que c'est une institution fondamentalement dualiste. Et cette division du peuple en deux aurait été, selon les anecdotes inventées, inventée par les empereurs, et notamment par Romulus d'abord, après avoir tué Rémus. Autrement dit, nous avons un peuple double parce que un empereur unique est toujours quelqu'un qui a assassiné son double. Il y a une espèce de critique feutrée et mythologisée, j'allais dire, l'autocratie.
De la prise de pouvoir par un autocrate.
Voilà, de l'autocratie. Alors, pour ce qui concerne l'historiographie, en effet, elle a longtemps été hésitante. Les courses de chevaux n'étaient pas considérées comme un très grand sujet historique. Et puis ensuite, quand l'histoire sociale est arrivée, on a cherché des conflits d'intérêts, en effet, et la lutte des classes dans toute l'historiographie marxiste pour justifier ces révoltes violentes caractérisées. Les théories, là, n'ont pas trouvé l'appui de sources. Alors, la réaction est venue. Une histoire plus philologique, avec Alan Cameron notamment, ce retour au texte tendait à montrer que, en fin de compte. Le modèle, c'était le hooliganisme, les casseurs d'aujourd'hui, comme si ce phénomène du débordement de la violence du stade dans la rue n'avait pas besoin lui-même d'explication. Le jeu n'est qu'un jeu, telle était la conclusion. Alors la difficulté est en effet d'expliquer comment un jeu, sans cesser d'être un jeu, peut empiéter sur le domaine politique, social et même religieux, et comment on passe du pas sérieux, j'allais dire, au sérieux et du ludique au social ou au politique. Alors la première réponse est évidemment de voir le rituel se prolongeant, puisque cette course, et peut-être tout sport, est un rituel de conflit, c'est-à-dire pour éviter que se produise une révolte, on la simule dans un espace bien contrôlé où on peut facilement la maîtriser. Et il arrive que c'est le jeu, mais il arrive que le jeu tourne à la échappe à la maîtrise de celui qui l'organise, et à ce moment-là, c'est la révolte. Ça, c'est une réponse que font les ethnologues ou même les historiens de l'Occident. Cette analyse est juste, mais dans le cas de l'hippodrome, et avec sa très riche symbolique des courses, je pense que le jeu, avec ses règles relativement simples, sert à décrire, peut-être, et à structurer les domaines infiniment complexes que sont le politique, le social, le religieux. La symbolique du jeu réduit cette complexité en révélant entre elle et ces domaines complexes et extérieurs des analogies symboliques, un langage polyvalent et des images apparentées. Ça, je crois que c'est fondamental. Si bien que les couleurs, si vous voulez, les contemporains ont raison de dire « c'est une haine qui n'a pas de raison ». C'est ce qu'ils disent au moment de la pire révolte, Nika.
Alors, parlons-en de cette révolte, Nika, parce qu'on l'a évoqué au tout début de notre discussion. Elle a lieu il y a très exactement 1480 ans. Alors, ce n'est pas un anniversaire, c'est comme cela. C'était en janvier 532. Justinien est au pouvoir. Il donne, comme d'habitude, sa présence à l'hippodrome. Et il va y avoir là une révolte qui va monter au cœur de l'hippodrome, qui va sortir de l'hippodrome pour y revenir finalement dans sa conclusion, avec un massacre considérable. On dit, mais est-ce la bonne source, que 30 000, 35 000 personnes auraient été assassinées dans cet hippodrome par l'empereur Justinien.
Tous les spectateurs.
Pour s'être révolté contre l'empereur. Cette révolte s'appelle la révolte Nika, parce qu'elle porte ce nom d'un verbe grec qui signifie quoi ? La victoire, Nika, en l'occurrence ?
Vaincre ? Oui, c'est le Christ est vainqueur, ouais. Soit vainqueur. Voilà. Donc,
alors, c'est quoi cette révolte Nika et pourquoi est-elle importante pour comprendre justement cette
elle,
ce
elle
rôle
est
de
elle importante parce que ça a été un traumatisme épouvantable. Vraiment, les historiens le disent et tentent de l'expliquer. Il y a eu un peu plus tard, au moment de la prise de Jérusalem, dans d'autres conditions sur lesquelles je n'insiste pas, un peu la même chose, c'est-à-dire des massacres dans toutes les villes, généralisés à l'Empire, et qu'à ce moment-là, on n'a pas expliqué comme l'extension d'un jeu, mais comme une machination diabolique. Et finalement, dire que la révolte de Nika n'a pas de sens, ça veut dire simplement que ces révoltes et l'organisation du jeu créent une structure vide. Qui ne débouche pas directement sur le politique, mais qui donne une structure prête à tout emploi.
Oui, alors
un mécanisme
à tout emploi, c'est-à-dire que ces dèmes peuvent être utilisés quelquefois par des empereurs pour pouvoir défendre la ville s'il le faut. Ces dèmes ont pu être utilisés à d'autres moments pour pouvoir renforcer les murailles de Constantinople. Ces dèmes peuvent avoir été utilisés par tout le monde à un moment ou à un autre. Et là, en l'occurrence, quelquefois, ça tourne au massacre, ça tourne au pogrom, ça tourne à une sorte de violence déchaînée qui se déchaîne dans l'hippodrome, mais également dans toute la ville elle-même, donnant des journées atroces où les gens se massacrent entre eux parce qu'ils sont bleus, parce qu'ils sont verts, c'est ça ?
Alors, oui, en effet, c'est-à-dire que ce mécanisme est particulièrement violent dans la mesure où il n'a aucune cause. S'il y avait un programme, comme dans le cas du jeu politique normal. S'il y avait un programme, les affrontements donneraient lieu à un arbitrage, à un accord. Tandis que là, nous nous trouvons dans un tout autre cas de figure, d'une structure vide, et parce que vide, parce que sans aucun sens, dualisme pur, elle ne peut pas être... Elle débouche sur la pire des violences. Qui ne peut être calmée que par une répression et une autre violence. Donc c'est un enchaînement de violences structurelles. Et il ne faut pas chercher, surtout pas chercher pour comprendre quelque chose derrière. Si bien que les couleurs, en ce sens, sont plutôt une préhistoire des partis politiques. Mais je ne suis pas sûr qu'il ne reste pas, alors, dans les partis politiques, quelque chose comme une structure de jeu, c'est-à-dire...
Mais ne dit-on pas, d'ailleurs, le jeu politique, quand on parle aujourd'hui de la politique, le jeu politique.
Et dans, même dans la manière de présenter les rivalités dont la gauche, la droite...
L'opposition, majorité, etc.
Un centre qui n'existe pas. Mmh. Enfin, il y a des similitudes qui sont amusantes, qui ne sont pas significatives, sinon peut-être d'un échange entre le domaine du jeu, ses structures du moins, et le domaine du politique qui garde évidemment, qui est tout autre chose qu'un jeu.
Alors tout de même, Gilbert Dagron, on a évité d'évoquer peut-être le principal de cette affaire, enfin le principal, quelque chose d'extrêmement important, c'est le combat entre l'Église et l'hippodrome, parce que cet empereur, grâce à Constantin, il est chrétien. Cet empereur qui crée cet hippodrome de Constantinople, on ne peut pas dire, il le crée, certes sur des traces romaines, vous nous avez expliqué que ça remonte très loin, sur des traces païennes, sur donc une histoire qui précède le christianisme, mais néanmoins, il est chrétien, cet empereur. Comment fait-il pour mélanger la mystique chrétienne et cette mystique du jeu, cette mystique de l'hippodrome? Et comment fait-il pour faire en sorte, au bout du compte, de s'entendre avec les autorités ecclésiastiques de sa ville, les évêques, tous ceux qui vont progressivement prendre un pouvoir symbolique sur la population et qui vont, eux, tenter de limiter au maximum la puissance de cet hippodrome, son poids politique, son poids religieux également dans la société, en interdisant qu'il y ait des courses le dimanche, en interdisant qu'il y ait des courses au moment de Pâques, et puis ensuite en interdisant qu'il y ait des courses au moment de Noël, etc. etc. Comment fait cet empereur pour pouvoir mélanger les deux traditions d'une certaine façon ?
Alors, les jeux sont-ils païens ? Non, ils ne le sont pas. Ils ne le sont plus à Rome très, très tôt, ils sont laïcisés, et à Constantinople, ils sont christianisés. Peut-être l'Église sent-elle justement l'existence derrière les courses de cette symbolique très ancienne, ces rituels. Mais ces rituels eux-mêmes conviennent très bien au christianisme, car l'idée de salut, l'idée de vaincre la mort, l'idée de renouvellement...
L'idée d'unité.
Voilà, c'est, je disais en commençant, je crois que c'était très christianisable, et de fait... Donc l'Église sentait probablement que les vieux rituels diabolisés étaient remontés à l'époque païenne, mais ils étaient prudents. Par exemple, Tertullien déclare, « Vous qui assistez aux courses d'hippodrome, savez-vous que vous faites tel geste, vous dites tel mot pour telle raison ? C'est-à-dire que c'est l'oubli du sens qui est dénoncé par les chrétiens comme étant diabolique. Chaque fois qu'il y a une non-conformité du geste au sens ou du mot au sens, il y a une ouverture pour la démonologie. Alors, ça, c'est une raison, mais alors, au-delà, il y avait un grand problème de calendrier. Peut-on avoir des courses le dimanche
à la sortie de la messe, par exemple.
Alors, Jean Chrysostome se plaint que son église est vide. Bon, il se plaint aussi que les chrétiens y côtoient des païens et des juifs. Mais en même temps, dans tous ces auteurs qui écrivent contre le spectacle, il y a une fascination. Précisément parce qu'il y a un socle qui est à peu près identique au signe près entre le jeu les rituels des courses particulièrement et je dirais pas la messe, mais la liturgie. Il y a des chants, mais ce ne sont pas les mêmes. Et c'est l'orgue d'un côté, pas à l'église comme chez nous, mais à l'hippodrome. Et c'est la voix seule autorisée à l'église. Si bien qu'on a une structure d'opposition toute prête pour un rhéteur, pour montrer que, pour décrire, j'allais dire, le christianisme comme une course redressée. Et on a des textes stupéfiants.
Ce qui expliquerait justement que le combat contre l'hippodrome n'ait pas été jusqu'à la suppression de l'hippodrome dans cette Byzance.
Une autre raison, c'est que ça touchait de trop près aux empereurs pour que l'Église puisse
s'imposer,
critiquer, ouais. Critiquer ou demander la suppression.
Mais les empereurs, il y en avait qui étaient hippomanes, nous expliquez-vous, Gilbert Dagron, d'autres qui ne l'étaient pas. Donc on aurait pu penser qu'au profit de l'arrivée au pouvoir de tel ou tel, eh bien, il aurait lui-même mis de côté cette question-là. Or, non, aucun empereur ne met vraiment de côté cette question-là, même s'il critique, non. Même s'il n'a pas envie d'aller à l'hippodrome. L'empereur s'oblige à y aller parce que le peuple, oui. Ces fameux dèmes de Constantinople, ne comprendrait pas qu'ils ne s'y rendent pas.
Oui, alors on peut aller plus loin et dire que le christianisme de l'empereur côté hippodrome est un christianisme impérial et que la critique des clercs vient... De ce que le statut de l'empereur est différent dans l'Église. En gros, il garde sa couronne quand il est... Et il apparaît comme le soleil. Mais attention, le Christ, lui aussi, est prédit comme un Orient venu d'en haut, c'est-à-dire un soleil. Donc il n'y a pas de contradiction. Mais c'est une manière de présenter différente, avec une substitution. Enfin, l'empereur est dans le rôle du Christ, d'un côté, et il ne peut pas, il ne doit pas, à l'Église, évidemment, garder sa couronne. Et il est le servus Dei. Et non pas le représentant de Dieu.
Oui, et puis autre chose qui peut mettre ensemble l'empereur et l'Église, c'est la peur de la sédition. C'est ce que vous expliquez dans votre livre, Gilbert Dagron, la peur de la division, c'est-à-dire cette fameuse unité qui est prédite par l'unité de l'Église, mais cette unité aussi que l'on espère dans cet hippodrome de ces clans concurrents qui, malgré tout, vont quand même redonner une sorte d'onction à l'empereur. L'un comme l'autre, l'Église et l'empereur, ont peur de la sédition, de la division qui peut miner la cité d'une certaine façon, Gilbert Dagron.
C'est cela. Mais d'un côté, nous avons en effet du côté purement chrétien, mais ecclésiastique, l'orthodoxie qui est une structure unitaire, évidemment. Mais à l'hippodrome... L'astasis, c'est deux choses. C'est, ça peut être interprété comme une dualité, non pas négative,
mais positive.
Une espèce d'éclatement de l'unité, enfin une dialectique,
oui, mais
une dialectique politique.
Tant qu'elle est maîtrisée par le code et par la norme et voilà. par les règles du jeu, justement.
Ce qui est quand même la plupart du temps le cas. Il n'y a pas de Nika tous les jours.
Voilà, il n'y a pas de révolte tous les jours. Mais néanmoins, c'est cela, c'est-à-dire que cette division est positive parce qu'elle permet justement la dynamique du jeu, mais elle devient négative à partir du moment où elle sort de ce jeu-là pour pouvoir se répandre dans la cité ou dans l'Empire tout entier.
En effet, et c'est pour ça qu'il y a des empereurs qui sont côté hippodrome, dans les anecdotes extrêmement nombreuses sur le sujet, qui sont complètement dévoués à l'hippodrome. Et c'est un mode de gouvernement. Véritablement, ça n'est pas une politique, c'est un mode de gouvernement très particulier, à l'époque iconoclaste par exemple, remontant à la tradition constantinienne, les empereurs ont un dialogue, ne prennent aucune avec ce peuple double, mais réunifié, et ne prennent aucune décision importante sans que ce soit à l'hippodrome. Et inversement, vous avez le côté Église, c'est-à-dire la répression, Justinien. Si vous voulez, du point de vue du comportement politique des empereurs, la différence est très grande. Et les anecdotes le montrent, parce que tout se réduit en anecdotes à Constantinople. En légende, en anecdotes et en folklore. Vous parliez du livre des cérémonies. Il y a un autre livre de la même époque qui est un recueil folklorique sur le... et où l'hippodrome joue un rôle considérable avec une mise en scène de tous les jumeaux qu'on voudra, alliés ou ennemis. Et une résurrection de Romulus et Rémus, ce qui est quand même un peu fort au Xe siècle.
Merci Gilbert Dagron d'avoir expliqué pour nous pourquoi cet hippodrome de Constantinople était si central dans cette ville de Constantinople. Donc, ce que vous expliquez très bien dans votre livre, l'hippodrome de Constantinople, jeu, peuple et politique, donc par Gilbert Dagron aux éditions Gallimard, dans la très fameuse et très méritée pour sa réputation bibliothèque des histoires. Merci encore. Nous continuerons cette semaine donc en venant demain au XXe siècle avec la naissance d'un parti qui fête cette année ses 40 ans, à savoir le Front National. Mercredi, nous continuerons en évoquant le XIXe siècle et la place que pouvait tenir la naissance de ces partis qui allaient devenir les partis politiques modernes. Et puis, jeudi, nous nous poserons à peu près la même question en débat qu'avec Gilbert Dagron. Y avait-il des partis politiques à Rome? Nous en discuterons avec des spécialistes de la Rome républicaine, mais également de la Rome impériale. Merci encore, Gilbert Dagron.